Radio Mieux-Être. CJLV AM 1570. Alors, bienvenue à cette nouvelle émission de Les rêves nous parlent. Et puis, bonjour Jean.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, Jean, on va aborder, en fait, le rêve dans tous ses états. C'est-à-dire, on va aborder des questions pratiques.
Exactement, le rêve un peu au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos rêves?
Comment interpréter? Comment s'en souvenir?
Comment s'en souvenir, c'est ça. Comment s'en souvenir, c'est sans doute la question qui m'est le plus souvent posée.
Parfait.
Quand je fais une conférence ou quand je donne des formations. Alors, ça mérite qu'on s'arrête un petit peu là-dessus, parce qu'évidemment, c'est bien beau de s'intéresser aux rêves, mais si on ne s'en souvient pas, on ne peut pas faire grand-chose avec.
C'est vrai. Ouais.
Alors, il n'y a pas de recette miracle pour se souvenir de ses rêves. C'est la première chose, je crois, qu'il faut dire. Mais il y a quelques bonnes petites choses à savoir. La première chose, c'est que... Il faut vouloir se souvenir de ses rêves.
Le premier détail, c'est qu'il faut se coucher puis se fermer les yeux.
Voilà, ça c'est inévitable, on dort,
oui,
n'est-ce
vrai.
Pas Jean? C'est inévitable, essaye de passer 72 heures sans dormir et puis on en reparlera, ça arrivera. Tu pourras même dormir debout si tu veux et tu pourras même rêver debout.
Mais
si
là, c'est une autre discussion, on l'a déjà eu cette discussion-là, à l'effet qu'on rêvait aussi éveillé très souvent.
Exact, mais donc se souvenir de ses rêves... il faut vouloir. En fait, bon, on se souvient de nos rêves, même si on ne veut pas. On a des rêves qui nous reviennent, mais si on veut se souvenir de ses rêves, la première chose à faire, c'est que s'endormir, avant de s'endormir, de se programmer soi-même, finalement, de se dire « je veux me souvenir de mes rêves », de se passer un message à notre subconscient en disant « s'il te plaît, aide-moi à me souvenir de mes rêves ». Et en fait, pour se souvenir de nos rêves, c'est important quasiment que notre attention vers les rêves, ce soit quasiment notre première pensée au réveil.
Donc la motivation, il faut vraiment... Si on n'est pas vraiment motivé, ça ne marchera pas parce qu'en fait, l'inconscient, il n'y aura pas de dialogue avec l'inconscient.
Voilà, l'inconscient entend vraiment la motivation qu'on peut avoir.
Exact.
Et d'ailleurs, dès qu'on commence à noter ses rêves, ça j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, comment noter ses rêves, il y a quelques petits trucs pratiques intéressants à savoir. Mais dès que l'inconscient se rend compte qu'on s'intéresse aux rêves, il a tendance à en amener. Il y a vraiment donc en effet un dialogue qui s'installe. Et la principale difficulté en fait pour se souvenir de nos rêves, c'est que notre pensée, que notre attention aille dès le réveil vers nos rêves, parce que les rêves s'échappent très très vite. Jung disait que les rêves, c'est un peu comme les étoiles. Sont là, elles sont toujours là, les étoiles, derrière les nuages, derrière la lumière du soleil. Mais dès que le soleil de la conscience se lève, les étoiles disparaissent, les rêves disparaissent. Alors, ce qui est vraiment important, finalement, c'est de se ménager un temps calme, le matin, pour prendre le temps de se souvenir de ses rêves.
Récolter la moisson.
Voilà, pour les laisser remonter. Alors, ça implique d'éviter un réveil brutal.
Et ça me fait penser à une très belle chanson de Jacques Brel, « Un enfant, ça vous décroche un rêve, surtout à 5 heures du matin ».
Ça, c'est certain, quand on est réveillé par les cris d'un enfant, par exemple, ça rend les choses difficiles. Et quand on est réveillé par un cadran qui sonne... Très fort, par exemple, aussi. Et la première chose, c'est de se ménager un temps calme. C'est, si possible, par exemple, si on sait qu'on doit se lever à 7h30 et qu'il faut absolument se lever à 7h30, ben, autant mettre le réveil à 7h15 pour avoir un 10 minutes, un quart d'heure de tranquillité dans le lit à rester avec simplement ce qui remonte de la nuit. Peut-être qu'il n'y a pas d'image de rêve, mais il y a toujours, toujours un sentiment. Il y a toujours une émotion, ce qu'on pourrait appeler l'écume des rêves, l'écume de la nuit, qui reste là, qui est le sentiment dans lequel on se réveille. Et si on passe assez de temps avec ce sentiment, il y a de fortes chances qu'il y ait des images qui remontent.
Donc c'est à ce moment-là qu'on doit noter. Parce que si on ne note pas, ça risque de s'oublier.
Alors, En fait, oui et non. C'est-à-dire qu'on peut prendre le temps, on peut prendre les 10 minutes à simplement se remémorer le rêve et à se le re-raconter.
L'intégrer.
L'intégrer, c'est ça. Et en effet, il est bon de prendre aussi vite que possible, à partir de là, le temps de le noter ou au moins d'en parler à quelqu'un. Mmh. Parce que c'est comme si le cerveau enregistrait l'histoire que nous nous racontons à travers, avec le rêve. Il y a des gens qui s'arrangent pour qui ont le sommeil léger, qui se réveillent dans la nuit avec un rêve. Et ce qu'ils font, c'est dans ces cas-là qu'ils l'enregistrent, par exemple s'ils ont une enregistreuse, ou qu'ils le notent immédiatement. Et ça, en effet, mm-hmm. si on se réveille avec un rêve et qu'il est présent ouais. immédiatement, la meilleure chose à faire, c'est d'en prendre note immédiatement. Et mm-hmm. puis, si c'est en plein milieu de la nuit. De le noter va aussi permettre de relâcher un petit peu la tension ouais. Et puis de retourner dormir mm-hmm. Alors que sinon il peut y avoir toute une lutte intérieure qui s'installe pour garder le rêve
ouais.
Mais un des points très intéressants qu'a montré la recherche autour des rêves, c'est que le plus important finalement quand on n'a pas de rêve qui vienne immédiatement au réveil, c'est de rester immobile dans mm-hmm. le lit.
Okay.
On s'est rendu compte que la mémoire du rêve est dans le corps. Et c'est tout à fait frappant. En fait, une des choses qui va faire que nos rêves s'enfuient, c'est quand nos pensées commencent à s'emballer sur notre journée, ou quand on commence à bouger mm-hmm. d'une façon un petit peu trop active, pour les rêves. Dans ce cas-là, notre attention, tout simplement, commence à se disperser. Par contre, si on passe 10 minutes immobile dans le lit, à simplement respirer en respirant dans le sentiment dans lequel on s'est réveillé le matin. Comme je disais, il y a de fortes chances qu'il y ait des images de rêve qui remontent. Et les expériences ont montré que si, par exemple, on s'est réveillé dans une position différente de celle dans laquelle on s'est endormi. Ouais. On sait qu'on a tendance, par exemple, à s'endormir sur le flanc droit et puis qu'on se réveille sur le flanc gauche. Mmh. Eh bien, au bout d'une dizaine de minutes, si on a encore le temps, on peut changer très 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 doucement de position pour aller se mettre sur le flanc droit, sur la position d'endormissement. Mmh. Et si on passe encore quelques temps, 5 ou 10 minutes, mmh. à simplement respirer, écouter, faire attention à ce qui se passe, eh ben, il arrive qu'il y ait des rêves du début de la nuit qui remontent. Okay. Parce que nous rêvons par cycle, tout au long
rêve,
de la nuit.
On rêve, je pense, c'est à tous les heures qu'un...
Toutes les heures et demie, à peu près. Le cycle de sommeil humain est d'une heure et demie. Donc, alors, il y a des gens qui, pour se souvenir de leurs rêves, programment un réveil okay. qui va les réveiller, par exemple, 3 heures après qu'ils se soient endormis. Ils ont un endormissement rapide, ils mmh. savent qu'ils n'ont pas trop de mal à s'endormir, et ils se mettent un réveil pour... se réveiller, parce que à ce moment-là, il est très probable qu'il sorte d'un cycle de sommeil paradoxal, qu'il sorte d'un rêve et que le rêve soit tout frais et qu'il puisse le noter.
Okay.
Mais c'est un petit peu extrême comme mm-hmm. méthode. Ça implique mm-hmm.
ça
de hacher notre
nuit. Ça fait des nuits décousues et pas très reposantes.
Pas très reposantes, en effet. Il y a des gens qui font ça, qui sont vraiment à la traque, qui traquent leur rêve. Ouais. Il y a un truc aussi qui est conseillé souvent dans les manuels, qui consiste à boire un verre d'eau ou un verre de lait avant de se coucher, en sachant que ça activera vraisemblablement le système urinaire dans la nuit, mmh. et que c'est au sortir du cycle de sommeil paradoxal, après qu'on est rêvé, qu'on est le plus proche du réveil.
Mmh.
Donc, si on a une envie d'uriner dans la nuit, très souvent, c'est au sortir d'un rêve, en fait, qu'on se réveille, qu'on ressent cette envie, et qu'on se lève. Et donc, à ce moment-là, encore une fois, on peut noter nos rêves.
Ouais.
Il y a d'autres gens qui suggèrent un petit rituel qui consiste par exemple à manger la moitié d'une pomme mmh. en se couchant
okay.
et à manger l'autre moitié le lendemain. Et un rituel, c'est quoi ? C'est un geste qui porte une signification. Donc en fait, en faisant ça et en le faisant avec cette signification à l'esprit, ils passent un message à leur inconscient. Et en mangeant la première moitié de pomme, ils disent « c'est le début de la récré ». Tu peux commencer à te préparer à m'envoyer des rêves.
Mmh.
Et le lendemain matin, en mangeant l'autre moitié de la pomme, ils envoient un message complémentaire à leur inconscient et ils disent « la récré est finie ».
Mais de ta façon de parler de l'inconscient, c'est comme si c'était un gros animal qu'il faut amadouer. C'est quand même intéressant. Peux-tu nous parler un peu plus de cette idée-là, comment justement aborder l'inconscient, parce que l'inconscient, en fait, c'est toujours nous.
C'est toujours nous, mais qui sommes-nous?
Est-ce que c'est notre partie primitive?
Oh, c'est bien plus complexe que ça. Tu dis c'est toujours nous, et ça renvoie à l'investigation la plus fondamentale qui soit, c'est qui suis-je? Okay. Et ça devient difficile de répondre à cette question parce que finalement, si je dis je suis moi, je dis simplement je suis ma propre conscience. Mm-hmm. Mais en effet, cette conscience n'existe pas sans un inconscient qui la nourrit, qui la porte, qui l'alimente sans arrêt. Alors, il y a deux conceptions majeures de l'inconscient, on pourrait dire. Il y a celle de Monsieur Freud, qui est intéressante, qui consiste à dire que l'inconscient, c'est un peu la poubelle de la conscience.
C'est tout ce qu'on refoule, c'est tout ce qu'on refoule du conscient.
C'est ça, c'est tout ce qu'on refuse de ressentir, vivre. Vivre. C'est aussi tout ce qu'on oublie. Okay. Parce que tout simplement, on ne peut pas tout garder en mémoire. Mm-hmm. Hein, on est obligé de faire un peu le ménage sur le disque dur. On envoie des choses dans l'inconscient, on l'oublie. Il y a aussi tout ce qui ne trouve pas assez d'énergie pour parvenir à la conscience, mais qui affleure dans ce qu'on appelle le subconscient. Okay. C'est juste là, par en dessous. Mais ça, c'est une conception restrictive. C'était la conception de Freud, et Jung l'a critiqué énormément en disant que cela faisait de l'inconscient le produit de la conscience.
Et on doit spécifier que Jung était le disciple probablement le plus proche de Freud.
Oui, en effet, Jung a été pendant un bon bout de temps le dauphin de Freud. Freud voyait vraiment en Jung son héritier, mm-hmm. jusqu'à ce qu'ils apparaissent qu'ils aient des points de divergence majeurs, dont cette conception de l'inconscient. Et une autre conception aussi tenant au fait que Freud voulait ne voir dans l'inconscient que de la sexualité, mm-hmm. que du désir. Mm-hmm. Et Jung disait... Il y a certainement du désir dans l'inconscient, il y a certainement une dimension animale, c'est certain, mais il y a beaucoup plus que ça parce qu'il y a aussi une dimension qui donne sens à notre existence.
Une dimension spirituelle.
Exactement. Jung mettait en contrepoint de l'instinct sexuel, il mettait ce qu'il pouvait appeler littéralement l'instinct spirituel. Alors à partir de là, l'inconscient, ce qu'on peut en dire du point de vue de Jung, c'est que c'est ce dont émerge notre conscience. Notre conscience ne vient pas de nulle part. Elle repose sur des racines qui sont non seulement des racines biologiques, mais aussi des racines psychologiques, des mémoires ancestrales, des mémoires ancestrales de toute l'humanité, et peut-être même, d'après Jung, parce que c'est la notion de l'inconscient collectif, au-delà de l'humanité. Ça nous fait rejoindre la vision des Premières Nations qui disent que finalement les plantes, les animaux, les pierres sont aussi des formes de vie psychique. Et pour Jung, l'inconscient, c'est tout simplement la grande nature d'où nous émergeons. Mmh. En chaque instant, parce qu'il faisait remarquer qu'en fait notre conscience émerge de l'inconscient dans chaque instant. Que si l'inconscient le voulait, il pourrait souffler la flamme de la conscience en une fraction de seconde et on s'endort. Mmh. Où on perd toute conscience, ça y est. Et nous avons l'illusion d'une continuité de la conscience, mais en réalité, c'est comme si notre conscience renaissait sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt de l'inconscient. Mmh. Alors l'inconscient est vivant, et quelque chose qui est important à noter, c'est que l'inconscient est autonome. Il a sa propre volonté, il a ses propres buts. Mmh. Il a ses propres, il prend ses propres actions. Il peut vouloir conduire la conscience sur des chemins que la conscience n'a absolument pas prévus. Il peut avoir son propre projet pour notre vie.
Et il nous passe ses messages dans les rêves.
Et il nous passe ses messages dans les rêves, dans les symptômes, dans les lapsus, par exemple, dans les omissions, dans les oublis,
les actes manqués,
toutes les façons qu'il a de nous rappeler que la conscience n'est pas entièrement autonome, elle ne fonctionne pas en vase clos. Mmh. Donc en effet, pour se souvenir de nos rêves et pour entretenir une bonne relation avec nos rêves, une des premières choses, c'est de manifester du respect à l'inconscient. c'est de ne pas le considérer comme une chose qu'on programme, par exemple, ou qui serait simplement une poubelle, mais de s'adresser à lui comme à un ami ou comme à un conseiller à qui on peut demander, donc, par exemple, le soir, en se couchant, « Dis donc, j'ai besoin d'un rêve à propos de tel problème. » Et ça, c'est quelque chose que très très longtemps pratiqué dans toutes les cultures ancestrales, ce qu'on appelle l'incubation des rêves, consistait à utiliser éventuellement même des rituels. Par exemple, il y a des gens qui jeûnaient avant de pendant plusieurs jours. Il y a la fameuse quête de vision que pratiquent encore aujourd'hui les Amérindiens, qui consiste à pleurer pour un rêve littéralement, et qui consiste à demander à l'inconscient, mais encore une fois, quand on dit inconscient, on ne sait pas ce que c'est. Hein. Dans le langage des Premières Nations, par exemple, c'est on demande au grand esprit ou aux esprits. Dans le langage religieux, on demande à Dieu. Jung était pour cela parfaitement neutre. Il disait, ce que nous désignons comme étant inconscient, c'est ce dont nous ne sommes pas conscients. Nous n'avons aucun moyen de savoir directement qu'est-ce que c'est.
Jean, est-ce que pour Jung, l'inconscient, c'était Dieu?
Jung se refusait à dire quoi que ce soit sur Dieu. Jung était un psychologue.
Il constatait
qu'il y avait une image de Dieu dans la psyché qui était d'une certaine façon incontournable, que la psyché vivait, même chez des gens qui nient complètement la dimension spirituelle, qu'est-ce qu'ils nient ? Ils ont encore une image qu'ils portent en eux, et que cette image est au centre de la psyché. Mais Jung se refusait à affirmer quoi que ce soit sur Dieu. Par contre, il faisait remarquer qu'on ne peut pas distinguer l'inconscient de Dieu.
Ouais. Fort intéressant. Alors, je vais déjà donner les numéros de téléphone, Jean, si quelqu'un voudrait téléphoner pour faire analyser un rêve, pour poser une question, comment justement prendre note de ses rêves, les analyser, tout ça. Alors, vous pouvez composer le numéro de téléphone 450-680-1570, 450-680-1570. Et de partout au Québec, vous pouvez faire le numéro 1-866-895-3142, 1-866-895-3142. J'en profite aussi pour vous rappeler l'adresse de notre site web, www.radiomieuxetre.com. Donc, Jean, ce que tu disais tantôt, bon, on était vraiment très, très, pour employer une expression chinoise, très basic. Comment, justement, se réveiller le matin et laisser rester dans l'ambiance du rêve pour bien le noter, bien le récolter. Ça, je trouve ça intéressant. Et puis là, quand on fait l'analyse, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on court se chercher un dictionnaire de symboles? Comment on analyse ses rêves?
Non, je vais parler justement des dictionnaires de symboles. Il y en a qui peuvent être utiles, mais il faut utiliser les dictionnaires de symboles avec des pincettes. Mais avant de travailler son rêve, de chercher à l'analyser ou le comprendre, il y a des choses à savoir sur la façon de noter nos rêves. Voilà, la première chose, c'est évidemment pour travailler les rêves, c'est très important d'en prendre note. Ça nous permettra de relire ces rêves plus tard, de faire par exemple une revue des rêves de l'année, ce qui est souvent très intéressant. On y verra éventuellement des éléments prémonitoires de choses qui se sont finalement passées. Mais la première chose, c'est donc de prendre note de tous les rêves qui nous arrivent, même les plus petits, même les plus insignifiants, sont importants. La moindre image de rêve a sa valeur. Et il y a une petite chose intéressante à savoir, c'est que pour tirer le maximum de nos rêves, il faut les noter au présent. Il faut les noter au présent et non pas au passé. Il faut les noter de telle façon que quand on relit le rêve, on revit le rêve. Si par exemple j'ai fait un rêve dans lequel je traversais une rue et tout d'un coup il y a une main qui est sortie de l'asphalte qui m'a agrippé la cheville, je ne l'écris pas en disant « je traversais une rue quand une main est sortie de l'asphalte et m'a agrippé ». Non, c'est « je traverse une rue, une main surgit de l'asphalte et m'agrippe la cheville ». Et en même temps qu'on note ces images de rêve, c'est très important de prêter attention aux émotions, aux sentiments qui l'accompagnent et en fait à toutes les pensées qui nous viennent, qui entourent ces images de rêve, mais essentiellement aux émotions. Et il est important d'en prendre note.
Parfait. Ben Jean, on a un appel. Alors, oui, bonjour.
Oui, bonjour, ça va bien?
Ça va très, très bien.
Bonjour.
Bonjour. Voici, moi, j'ai un rêve comme tel. Mon époux est décédé, cela fait 3 ans. Et dans mon rêve, il m'a dit de le laisser partir. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oh, madame, ça, c'est un rêve assez typique. Assez typique. Il est probable que vous avez encore beaucoup d'attachement pour votre époux qui vous manque.
Oui, c'est ça, oui.
Il vous manque, hein. Alors, vous voyez, c'est avec ce genre de rêve que les anciens sont venus vraiment à penser, à croire que l'âme existe et que les personnes décédées restent dans notre proximité jusqu'à ce que tout soit vraiment complètement bouclé. Et une des choses qui est importante qu'il soit bouclé, c'est le deuil qu'on a à faire de ces personnes. Parce que là, je suis obligé de dépasser un petit peu le contexte de l'interprétation psychologique des rêves, hein, même si on va pouvoir le ramener après dans ce côté-là. Mais dans cette idée, on se dit que finalement, l'âme de la personne décédée, après sa vie sur Terre, va partir dans un voyage, on pourrait dire, vers autre chose. Mais oui. Tant que il reste des personnes qui regrettent leur présence, qui ont l'impression qu'ils ne pourraient pas vivre sans eux, ben ces âmes se sentent comme contraintes de rester. Alors, une façon de comprendre votre rêve, c'est que votre mari vous dit « il est temps de faire le deuil, il est temps de me laisser partir, il est temps de préparer à une autre vie sans moi, d'accepter vraiment que maintenant... ta vie se passe sans moi. » Et sans même donc l'explication des anciens, ben, ça a beaucoup de sens sur le plan psychologique. Mm-hmm. C'est un élément du processus de deuil. C'est quelque chose qui vous invite à lui dire au revoir. Et ce que je pourrais vous suggérer, c'est de dire à votre mari, par exemple, de lui écrire une lettre pour lui dire... tout ce que vous auriez encore le goût de lui dire, de lui partager, s'il était là encore avec vous. Mais bon, de lui écrire une lettre d'au revoir.
Bon, c'est pas facile.
Je comprends que c'est pas facile du tout. Mais au fond, il s'agit de le laisser partir pour qu'il puisse continuer, d'une certaine façon, si on reprend le langage des anciennes cultures, pour qu'il puisse continuer à évoluer au-delà de cette vie. Et si ça vous communique, je ne sais pas si vous croyez en une existence après la mort, mais si ça vous communique quelque chose à ce niveau-là, ça peut vous communiquer aussi la certitude que vous pourrez un jour le retrouver. Mais vous le retrouverez de l'autre côté, qu'il ne s'agit pas de le retenir maintenant ici, sur cette terre, que maintenant vous devez malheureusement vivre sans lui. Et donc, écrire cette lettre, c'est la meilleure façon, c'est comme une façon de vivre votre deuil consciemment, de lui dire tout ce que vous avez à lui dire sur le cœur. Oui. Et puis, par exemple, quand vous sentez que vous avez touché une certaine paix avec le fait qu'il n'est plus là, oui. Ben vous pouvez prendre cette lettre et, par exemple, l'offrir au feu. Ce qui est une façon rituelle de dire au revoir.
Ok.
Est-ce que ça répond à votre questionnement?
Oui, ça répond beaucoup. Oui, oui, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup.
Mais merci pour votre appel.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Merci. Je rappelle à nouveau les numéros de téléphone pour parler à Jean Gagliardi. Si vous voulez faire analyser un rêve, donc gênez-vous pas, téléphonez-nous au poste. On est là pour répondre à vos appels. Alors, le numéro de téléphone à nouveau, 450-680-1570, 450-680-1570, sans frais, 1-866-895-3142. Alors, allez-y, ne vous gênez pas, téléphonez, on est là pour ça.
Alors, je vais continuer à parler un petit peu de la prise de notes, de la capture des rêves, on pourrait dire, pour mentionner deux petites choses qui sont importantes à faire, trois petites choses en fait. La première, c'est de donner un titre au rêve. Le premier titre qui nous vient à l'esprit, c'est une façon de tout de suite capter un peu le sens symbolique du rêve. Et une seconde chose, c'est toujours de noter les éléments de contexte. Qu'est-ce qui s'est passé dans les jours précédents? Quelles questions nous avions à l'esprit le soir quand nous nous sommes couchés? Mmh. Et la troisième chose, c'est éventuellement de dessiner même si on n'est pas du tout un artiste, mais de dessiner des éléments du rêve, des images. Ça peut être très très utile pour, j'en parlerai tout à l'heure, mm-hmm. pour rentrer dans la signification du rêve.
Excellent. Jean, souvent, quand on parle de rêve, on parle aussi de cauchemar.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que un cauchemar, est-ce que c'est quelque chose à éviter? Est-ce que c'est un cadeau? Comment vois-tu ça?
Moi, je vois ça comme un cadeau. Sur mon blog, il y a un article qui s'appelle justement « Le précieux cadeau du cauchemar ». Un cauchemar, en quelques mots, c'est quelque chose de difficile qu'on avait au fond de notre psyché et qui remonte. C'est comme une bulle de méthane qui était dans l'océan et qui s'est libérée et qui remonte à la surface. Alors c'est sûr que ça sent pas très bon, le méthane, quand ça arrive à la surface. C'est des émotions négatives. Et ce qui est vraiment important avec un cauchemar, c'est d'accepter de vivre ces émotions négatives. C'est de passer du temps avec elles, à les ressentir, à les, encore une fois, à les dessiner, par exemple, à en prendre note, à leur accorder de l'importance.
C'est comme une fièvre psychique.
C'est comme une petite crise de fièvre psychique et souvent, c'est un petit seuil de transformation.
OK. Qu'apporte un renouveau, renouvellement.
Qu'apporte un renouvellement. Et très souvent, quand un rêve, un cauchemar a été... Simplement, on a pris le temps de le recevoir. On a d'autres rêves après qui signalent comment ce qui est remonté s'est transformé, a évolué.
Ben, très, très bien. Alors, on va faire une petite pause et on revient dans quelques instants.
Ici, Laurent Kayla. Vous connaissez sûrement quelqu'un qui souffre de dépendance, quelle qu'elle soit. Drogue, alcool, cigarette, café, sexualité, jeu. J'ai moi-même vécu ces dépendances. Je vous invite à mon émission Au-delà de l'image, où il sera question de ces sujets sur les ondes de Radio Mieux-Être.
Au-delà de l'image vous est présenté en exclusivité sur nos ondes tous les samedis à 9h et en rediffusion à 18h.
Radio Mieux-Être. CJLV AM 1570.
Alors, nous sommes de retour à l'émission Les rêves nous parlent avec Jean Gagliardi. Donc, Jean, on a parlé donc de l'importance d'être motivé pour engager le dialogue avec l'inconscient, sans quoi ben il y a pas de rêves qui vont se manifester.
Ben, il y a toujours des rêves, hein. Il y a des rêves hors de notre contrôle qui vont s'imposer. Mais quand on se demande comment je peux faire pour me souvenir de mes rêves, la motivation est très importante.
Faut prendre ça au sérieux, sans ça on va le censurer, puis il y a rien qui va se passer.
Il y a aussi, comme on le disait hors onde, rester dans l'ambiance du rêve. Okay. C'est une très très belle expression. Hein? Rester dans l'ambiance du rêve, donc c'est s'accorder un temps calme.
Dans l'état d'âme.
Dans l'état d'âme du rêve. On peut mentionner aussi que il vaut mieux éviter de trop boire avant d'aller se coucher, il vaut mieux éviter, souper léger.
Ou on peut boire, comme tu disais, pour justement se lever plus souvent puis aller aux toilettes.
Oui, quand je disais trop boire, en fait, je pensais à l'alcool. Hein. Je pensais à tout ce qui est, tous les intoxicants qui peuvent perturber la psyché.
Parfait.
Et il faut savoir que... les gens qui prennent des somnifères pour dormir, ça ne les empêchera pas d'avoir des rêves, mais la médication rend très souvent beaucoup plus difficile de se souvenir de
justement,
nos rêves.
Justement, ça, j'ai entendu parler de ça à un moment donné. Est-ce que c'est vrai que le fait de prendre des médicaments, des antidépresseurs, des anti-anxiolytiques, par exemple, bloque les rêves?
Oui, bloque. C'est pas à 100%. Si l'inconscient a vraiment quelque chose à dire, ça remontera. Si on prête attention, si on a une motivation, il y a des choses qui remonteront. Mais tous les intoxicants, et on peut considérer que les antidépresseurs sont aussi un intoxicant au sens où ils viennent modifier la chimie du cerveau, ont tendance à perturber le processus de remémoration des rêves. Hein? C'est normal parce que les rêves ont aussi comme fonction de rétablir l'équilibre de la psyché. Alors, mais me voici, grâce aux antidépresseurs, et merci aux antidépresseurs si on en a besoin d'ailleurs, on rétablit l'équilibre de la psyché avec les antidépresseurs, eh bien, l'inconscient a moins de choses à dire. Il a beaucoup moins de choses à dire.
Okay.
Mais en fait, c'est tout simplement que la chimie du cerveau est très sensible à toutes les formes de perturbations et ça joue très très vite sur
un petit truc aussi que moi, un petit truc que j'ai remarqué moi dans ma vie personnelle. Souvent, quand je pars en voyage, je ne rêve pas Et quand je reviens de voyage, je fais des rêves qui me rappellent mon voyage. Autrement dit, c'est comme si je plaçais des rêves en banque.
Oui, alors ça, c'est, par exemple, ça, c'est éventuellement significatif du fait que tu, que quelque chose de toi est resté en voyage. Qu'il y a, qu'il y a comme, éventuellement, je supposerais que tu aimes beaucoup voyager, que tu as peut-être une petite tension quand tu reviens à la maison, une petite envie de rester en voyage. Que tu n'as peut-être pas goûté encore tous les aspects de ton voyage
c'est
et qui te reviennent dans, dans tes rêves. Et puis, il faut mentionner aussi qu'on a des périodes où on rêve beaucoup et d'autres périodes où éventuellement on rêve très peu et que c'est tout à fait naturel. En fait, quand on rêve beaucoup, c'est le signe qu'il y a une grande activité dans l'inconscient, qu'il a quelque chose à nous communiquer, qu'il y a un besoin d'évolution, un besoin de prise de conscience de quelque chose. Et puis quand on ne rêve pas, c'est le calme plat, ça va avec le fait que éventuellement l'inconscient n'a rien à ajouter à ce que nous vivons au quotidien. Comme par exemple, quand tu es en voyage, tu ne rêves pas. Ben, je suppose que le fait d'être en voyage est suffisamment excitant, amène suffisamment de vie dans, dans ton quotidien pour qu'il n'y ait pas besoin de vivre autre chose la nuit. Par contre, quand tu reviens, il y a peut-être, encore une fois, une petite nostalgie de ça. Et donc, tu repars en voyage la nuit.
Puis tu dis que, donc, s'il n'y a pas nécessité de rêver, mais le rêve ça ne se manifeste pas. Ça me fait penser à quelqu'un qui disait, lui, qu'il ne rêvait jamais. C'est un sage quand même assez connu, Krishnamurti.
Oh, alors attention.
Annonçait à voix haute souvent que, qu'il ne rêvait jamais parce qu'il n'était pas dans la dimension mentale de la vie.
Alors, ce qui est très intéressant à savoir, c'est que Krishnamurti a noté ses rêves pendant des années. C'est mentionné d'ailleurs dans la biographie d'un analyste jungien qui a travaillé avec lui. et Krishnamurti a fini par rejeter littéralement ses rêves en disant qu'il pensait que la méditation amenait au-delà de ce que les rêves pouvaient lui donner. Et ça a été justement l'objet d'une grande discussion avec cet analyste jungien qui s'appelait Robert Johnson. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que statistiquement, il y a à peu près 2%, 2 à 3% des gens qui naturellement ne se souviennent, pour ainsi dire, jamais de leurs rêves. Jamais. Très souvent, quand on me pose la question « comment se souvenir de mes rêves, je m'en souviens pas », très souvent, en fait, la clé, c'est que les gens ne prêtent pas attention aux toutes petites images de rêves. Bon. Mais il y a aussi une réalité qui, là, est avérée de l'autre côté, c'est que les gens qui se sont réalisés, qui se sont éveillés, pour ainsi dire, ils ne dorment pas, c'est-à-dire que même ils ne rentrent plus, ils sont encore conscients en sommeil profond, et donc ils ne rêvent plus, en effet. Et ça, ça a été étudié aussi par la science.
Il y en a quand même, il y a beaucoup de gens qui prétendent justement rêver consciemment toutes les nuits.
Alors, il y a la dimension du rêve lucide, mais Sri Ramana Maharshi, par exemple, avait été interrogé sur les rêves et il souriait en disant que il ne pouvait pas rêver puisque il s'allongeait pour donner du repos au corps et qu'il continuait à méditer.
Okay.
Et en effet, il semble que quand on développe une présence méditative totale, on est conscient, dans ces cas-là, des images que produit notre psyché en permanence, de jour comme de nuit, mais on ne peut plus dire qu'on rentre dans le rêve en tant que
d'être. On devient un témoin actif jour et nuit.
On devient un témoin actif jour et nuit. Mais enfin, ça concerne encore beaucoup moins que 1% de la population, n'est-ce pas?
S'il y a des auditeurs qui sont rendus à ce stade, ne vous gênez pas, téléphonez-nous au 450-680-1570.
Alors, je voudrais avancer un petit peu sur... une fois que j'ai noté mon rêve, je fais quoi avec ça? Alors, bien sûr, il est toujours possible d'appeler l'interprète de rêve, de faire un travail avec quelqu'un autour du rêve. Souvent, on peut en avoir besoin parce que le rêve, c'est comme un message qui est écrit dans notre dos. Donc, il se trouve que, ne serait-ce que d'en parler à quelqu'un d'autre et de lui demander son avis sur qu'est-ce qu'il pense de ce rêve, qu'est-ce que ça lui fait venir, ça peut être très, très, très utile parce que c'est quelqu'un d'autre aura plus de chances d'arriver à lire le message qui est écrit dans notre dos.
Cette personne-là va avoir un regard plus objectif.
Plus objectif, à la condition, c'est là où il faut quand même faire attention à qui on parle de notre rêve, à condition qu'il n'ait pas une théorie définitive dans laquelle il enfermerait le rêve. Mm-hmm. Si vous parlez à quelqu'un qui a la conviction que tous les rêves, ça ne veut rien dire, par exemple, malheureusement, il ne pourra pas vous répondre grand-chose. Il faut, de la même manière, si quelqu'un vous partage un rêve, c'est une habitude intéressante à prendre, par exemple, c'est de parler de ses rêves au petit déjeuner, de parler de nos rêves avec nos enfants, d'écouter les rêves de nos enfants. Et si la question vient, je me demande bien qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme en physique nucléaire ou en psychologie pour répondre à ça.
Ouais.
Il faut simplement répondre, voilà, quand j'entends ce rêve, voilà ce que ça me suscite comme réflexion ou comme émotion. Très honnêtement, sans aucune prétention à l'interpréter en tant que tel, mais en disant, ah, dans ton rêve, c'est cette image qui me touche et ça me fait penser à ceci ou cela.
Mm-hmm. Ben Jean, on a un autre appel. Alors oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Mon nom, c'est Normand.
Bonjour, Normand.
Oui, bonjour. Bon, concernant mon rêve, c'est que moi, je me suis élevé, si vous voulez, un peu comme un oiseau. Mais je savais à quel endroit j'étais, si vous voulez. C'était le même endroit où j'ai passé mon enfance, si vous voulez. C'était comme un oiseau, si vous voulez, qui circulait au-dessus de l'endroit où que j'ai habité.
Et comment vous vous sentiez dans ce survol? Quelles étaient les émotions ou les sentiments qui étaient présents?
Ben, je me sentais très, très, très bien. Je me sentais très comme dégagé de tout. Je me sentais très léger et très...
Est-ce qu'on pourrait dire libéré?
Très, très, très bien.
Est-ce qu'on pourrait dire libéré?
Oui. Oui, exactement. Oui, je pense que c'est le terme exact.
Est-ce que vous avez relevé des détails sur ce qui se passait en bas, ce que vous survoliez? Est-ce que vous avez observé des choses particulières?
Oui. Bon, oui. Écoutez, qu'est-ce que j'ai retenu particulier dans ce rêve-là? Comme je viens de vous expliquer, moi, j'ai passé mon enfance en campagne. Et sur les terres de mon père, il passait les lignes à haute tension, si vous voulez. Et c'était un peu comme au-dessus de ces lignes-là, et je volais comme... Vraiment, oui.
Vous survoliez les lignes à haute tension, ils étaient en train de les poser?
Non, pas les poser, mais c'était vraiment, si vous voulez, là, je voyais vraiment tous ces tours-là. Et c'est ça que vraiment qui m'a vraiment... La grande remarque, ça a été ça.
Alors, vous voyez, dans les rêves, on peut utiliser un peu ce qu'on appelle la langue des oiseaux, c'est-à-dire que les mots peuvent avoir plusieurs sens. Et c'est très intéressant que vous parliez de haute tension. Est-ce que vous avez vécu des périodes où vous avez eu beaucoup de tension, que ce soit de la tension nerveuse ou de la tension artérielle? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé?
Oui, oui, parce que comme vous savez, j'ai vécu des problèmes dans ma vie. Oui, il y a eu beaucoup de tension. Oui.
Il y a eu beaucoup de tension. Et oui. Est-ce que depuis ce rêve, vous avez revécu des moments de haute tension? Ou est-ce que dans la suite de ce rêve, finalement, est-ce que comment vous gérez votre tension?
Bon, écoutez, oui, y a une partie de la tension, si vous voulez, qui est tombée, mais il est revenu un peu de tension, mais pas...
Peut-être moins
pas
qu'auparavant?
Beaucoup moins.
Bon.
Oui.
Alors, votre rêve est assez typique dans le sens, ça va intéresser tous les auditeurs, dans le sens que beaucoup de gens rêvent comme ça de ce qui s'élève dans le ciel. Vous, ce qui est intéressant, c'est vraiment vous mentionner comme un oiseau. Au fond, vous étiez littéralement, si j'entends bien, un oiseau. Et ce qui est très frappant, c'est ce sentiment de libération, qui est assez typique parce que justement, quand on vole dans les rêves, c'est très souvent qu'on recherche, qu'on a besoin ou qu'on vit un moment de libération de ce qu'on pourrait appeler les lois de la pesanteur, de ce qui nous tient en bas, de ce qui nous coince, de ce qui nous alourdit dans la vie. Donc, je suis porté à penser que votre rêve est ce qu'on pourrait appeler un rêve de seuil, c'est-à-dire un rêve qui vous signalait une transformation à un moment dans votre vie où vous vous libériez de tensions profondes qui étaient sans doute en lien avec votre enfance et peut-être même plus particulièrement avec votre relation avec votre père. Mais le point vraiment important, c'est ce sentiment de libération que vous avez ressenti et le fait que la tension nerveuse que vous avez pu avoir dans votre vie est diminuée. C'est-à-dire que finalement, le rêve vous signalait que vous étiez en train de vous libérer, finalement, des éléments inconscients qui causaient cette tension. Parce que la tension que vous viviez, elle était sans doute liée à des éléments, des problèmes que vous avez rencontrés dans votre vie, comme vous le disiez. Mais vous savez, finalement, ce ne sont pas les problèmes qui causent notre tension. C'est la façon dont on les vit. C'est toujours la façon dont on les appréhende. Donc c'est toujours la façon dont, quelque part, ce qui se passe en nous face à ces problèmes. Et je crois que ce rêve vous donnait le signal que vous étiez libre, que vous étiez maintenant complètement libre de la tension qu'avait pu vous communiquer peut-être votre enfance.
Ok.
Et ce qui est très intéressant, moi je vous suggérerais, si vous vous retrouvez à nouveau dans des situations un petit peu difficiles, qui vous mettent sous tension, eh bien je vous suggérerais de revenir en imagination dans ce rêve, de l'utiliser, de retrouver cette liberté intérieure par rapport à toutes les difficultés de la vie. C'est vraiment, ce rêve peut être pour vous comme un guide quant à la façon de composer avec les difficultés de la vie. Il vous invite à prendre de la hauteur. Il vous invite à vous élever au-dessus des difficultés de la vie. Et le cadeau d'un tel rêve, c'est que si vous revenez en imagination dans ce rêve, si vous vous le re-racontez, vous pouvez le revivre et vous pouvez retrouver, même dans des situations difficiles, ce sentiment de libération. Et ça vous donnera éventuellement une toute autre vision de la situation. Ça peut être très intéressant de voir comment votre vision d'une situation pourrait changer entre le moment où vous faites face à la situation, puis ça suscite de la tension, vous la constatez, et puis vous faites cet exercice de prendre un petit temps tranquille, de fermer les yeux, d'imaginer, de redevenir un oiseau. Et voilà que tout d'un coup, la situation vous paraît peut-être moins difficile, que vous voyez apparaître une solution, en tout cas que la tension diminue. Ce serait ma suggestion avec un rêve pareil.
OK. Mais je peux rajouter que par après, si vous voulez, j'ai revécu aussi la même chose, mais qu'est-ce que je voyais en bas? C'était des personnes, un groupe de personnes. Et moi, si vous voulez, je me lançais au-dessus de ces personnes-là.
Est-ce que c'était des personnes que vous connaissiez?
Écoutez, oui, il y a une personne que j'ai reconnue de dos.
Une personne que vous avez reconnue seulement de dos?
Oui.
Et puis, encore une fois, quelles sont vos émotions, vos sentiments? Est-ce qu'il y avait une difficulté quelconque dans la relation avec cette personne?
Oui, parce qu'elle me doit l'argent, oui.
Ah?
Oui.
Alors, vous voyez, il se pourrait bien qu'encore une fois, le rêve vous montre en fait comment prendre de la hauteur face à des situations qui vous mettent sous tension, qui vous mettent en difficulté dans la vie sociale. Donc il vous invite à prendre de la hauteur, à prendre une distance pour pouvoir composer avec ces difficultés.
Mm-hmm.
Il y a D'accord? Okay. Donc, c'est comme si vraiment le rêve, l'inconscient, vous ramène régulièrement à l'idée que vous n'êtes pas obligé de rester collé à la difficulté, mais qu'à chaque fois, vous pouvez prendre de la hauteur.
OK.
Ben, bon. Je vous remercie pour votre appel. Je crois qu'on a un autre appel, donc je vais vous laisser.
Ben, c'est à moi de vous remercier, puis merci beaucoup et bonne chance dans tout. Quoi.
Merci, bonne journée. Bonne chance à vous aussi.
Alors, on va prendre... Oui. Donc, on va prendre un autre appel, Jean.
D'accord.
Alors, oui, bonjour. Donc, on va simplement mettre en ligne l'appel. Alors, oui, bonjour, monsieur, madame. Bonjour.
Bonjour, madame.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Charlotte de Montréal. J'écoutais votre émission et j'ai l'habitude, entre guillemets, de travailler mes rêves. Et donc, je fais vraiment tout ce que Jean a signalé pour s'en souvenir, demander des rêves. Et je vis de très, très longues périodes où il n'y a aucun rêve. Et j'ai beau appliquer toutes les techniques préconisées, rien n'y fait. Donc, j'aimerais savoir, en fait... qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là?
Dans ces cas-là, le mieux, c'est de se relaxer. Le mieux, c'est d'accepter, comme dans toute discussion avec un ami, qu'il y a des moments où il a envie de nous parler et d'autres moments où il n'a pas envie de nous parler. Et puis, ce que Jung préconisait, et qu'évidemment je préconise aussi dans ces cas-là, c'est que dans ces cas-là, il y a une invitation, il y a une indication à utiliser l'imagination. Parce qu'au fond, Jung était arrivé à la conclusion qu'autant les rêves nous amènent de l'information, mais on ne maîtrise pas comment cette information et quand cette information va nous parvenir. Et ça l'avait conduit à élaborer une technique qu'il appelait d'imagination active. C'est-à-dire que face à quelques questions qu'on se pose, on commence par faire le vide un petit peu à l'intérieur, et puis on repense à cette question, et on la laisse prendre forme d'une image. Et à partir de là, on rentre en interaction avec cette image. La règle très très importante quand on travaille avec l'imagination active, c'est qu'il faut se comporter dans le monde imaginaire avec les mêmes règles éthiques, on pourrait dire, que dans le monde réel. C'est-à-dire que il faut se comporter vraiment avec le même sens du bien et du mal, de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. Sinon, on passe un message à l'inconscient qui consiste à dire « je sais que c'est l'imaginaire et finalement, dans l'imaginaire, je peux faire n'importe quoi ». Et dans ces cas-là, l'inconscient peut tout à fait bloquer et refuser de continuer à alimenter l'imagination. Mais voilà, c'est tout à fait typique, en particulier pour les gens qui travaillent leurs rêves, c'est tout à fait typique d'avoir des périodes de sécheresse, on pourrait dire. Ce sont souvent des temps d'intégration, c'est-à-dire que dans les périodes où on rêve, il y a plein d'informations qui nous viennent. Dans les périodes où il n'y a pas de rêve, ben c'est le moment de relire les rêves qu'on a faits dans la période précédente, de les analyser plus en profondeur, d'intégrer ce qu'ils voulaient nous dire, et d'accepter aussi que quelque part les rêves, ils nous viennent par vagues d'une certaine façon. Donc il y a des périodes de la vie où ça vient avec beaucoup d'intensité et d'autres moins. Et là, c'est vraiment important de se relaxer, c'est-à-dire tout simplement d'accepter que c'est un mouvement naturel de la psyché et que quand il sera temps, s'il y a quelque chose d'important, on peut avoir confiance que l'inconscient se manifestera. Est-ce que ça répond à votre question?
D'accord. Oui, je pense. En fait, ça ramène au fait qu'on ne peut pas vraiment avoir de contrôle, entre guillemets, sur les rêves ou l'inconscient ou tout ça.
C'est ça. On ne peut pas avoir de contrôle. C'est un ami. C'est un ami. Il s'agit de s'en faire un ami. Et un ami a son autonomie. Il y a des moments où il a envie de nous parler. Il y a d'autres moments où il a envie de partir se promener tout seul. Il y a des moments où il peut nous dire « Écoute, pense à ce que je t'ai dit la dernière fois, puis on en reparle plus tard. » Donc, il s'agit vraiment d'engager une relation amicale avec l'inconscient et de lui faire confiance. S'il y a quelque chose qui réclame qu'il y ait un rêve, qu'il y ait une intervention de l'inconscient, ça viendra. Ça viendra. Donc, au fond, c'est pour ça que la recommandation principale est vraiment de se relaxer Et puis, encore une fois, s'il y a vraiment un problème qu'on veut scruter, mais qu'on n'a pas de rêve qui nous réponde, alors je recommande vraiment de s'exercer à l'imagination. Tout simplement y aller avec l'imagination. Et l'imagination est une façon de susciter des images qui sont tout aussi autonomes que celles des rêves, finalement.
Ah, d'accord, mais je n'avais pas envisagé cet angle-là, d'accord. Mais je vous remercie beaucoup.
Ben, merci pour votre appel, bonne journée.
Merci. Et puis Jean, l'imagination active, c'est aussi le processus créatif. C'est ce qu'on, c'est quand on explore notre dimension artistique.
Absolument.
C'est un peu ça qui va s'exprimer aussi.
Oui, tout à fait. Alors ça, à travers l'écriture, à travers la peinture, la musique, la danse, toutes les expressions artistiques. Et en fait, ça nous permet de revenir un petit peu sur qu'est-ce qu'on fait avec nos rêves. Parce que, on peut chercher à les interpréter, mais c'est pas facile d'interpréter ses rêves. Comme je disais, c'est le message est écrit dans notre dos. Il faut se méfier d'une certaine façon des dictionnaires de symboles qui prétendent réduire les symboles à une simple explication, parce que les symboles ont toujours de multiples facettes. Les vrais dictionnaires de symboles, enfin les dictionnaires de symboles qui sont vraiment utiles, sont les dictionnaires de symboles qui nous disent comment les différentes cultures ont compris un symbole. Par exemple, dictionnaire de symboles typique vous dira, s'il y a un chien dans vos rêves, un chien c'est la fidélité. Mais ce n'est pas nécessairement ça. D'abord, il faut regarder c'est quoi un chien pour vous. Comment il est ce chien? Est-ce qu'il est accueillant? Est-ce que ça, il bat de la queue ou est-ce qu'il est agressif, etc.
Est-ce qu'il nous parle ou est-ce qu'il nous dit ouf?
Voilà. Si on va regarder les dictionnaires de symboles, il y a par exemple un dictionnaire de mythologie de Gerbrandt et Chevalier qui est extrêmement intéressant, parce que lui, il va prendre le symbole du chien et puis il va nous expliquer comment les chiens ont été compris, enfin qu'est-ce que le symbole du chien signifiait dans différentes cultures. Et c'est là qu'on apprend par exemple que dans plusieurs cultures, comme en Grèce antique, où il y a le chien Cerbère, chez les Vikings, le chien, c'était le gardien de l'espace des morts. Hein, c'était le Cerbère. Que chez les Mexicains, le chien, c'est celui qui emmène l'âme des morts de l'autre côté. Et là, tout d'un coup, dans d'autres cultures, le chien, c'est l'animal fidèle, c'est le principal compagnon de l'homme.
Ça peut être le chien saucisse aussi.
Oui. Mais là, c'est dans la culture McDo, hein, qui n'est pas très...
Mais on peut rêver un chien saucisse.
On peut rêver un chien saucisse. Ce que je veux dire, c'est qu'en parcourant les différents symboles, les différentes compréhensions du symbole dans les différentes cultures, ce qu'il s'agit de regarder, c'est avec quelle signification nous résonnons, quelle est la signification qui nous parle. C'est à ce moment-là qu'on fait un vrai travail d'interprétation du symbole, parce qu'on rentre en résonance avec un aspect du symbole. Donc ça, c'est une chose, mais comme tu le mentionnais, Jean, une des choses les plus intéressantes qu'on peut faire avec nos rêves, c'est tout simplement de les élaborer créativement, c'est-à-dire d'écrire autour, de les peindre,
de ne pas les censurer,
de ne pas les censurer, et surtout, puisque j'ai très peu de temps, de noter les émotions qui viennent avec et comment ces émotions participent à notre vie.
Alors Jean, c'est déjà tout. Alors juste avant de terminer, je rappelle aux auditeurs qu'on peut te contacter si on veut entreprendre un travail d'analyse des rêves. On peut te téléphoner au 514 983-2165, 514-983-2165. Également, on peut consulter ton blog, http://voixdurêve.blogspot.ca. Alors, c'est tout pour aujourd'hui et on se dit à très bientôt et faites de bons rêves.
À la semaine prochaine.
rêve qui s'est enfin réalisé et tu me fais mal comme un rêve dont il va falloir m'éveiller.